Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et avec tout ce bel argent, nous continuerons à faire de bonnes émissions. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant, avec un peu plus de participation, Alexis Poulain et Marie Pinsard, qui nous rejoignent. Alexis Poulain, voilà, le fondateur du Monde Moderne, et Marie Pinsard, journaliste, écrivain. Non, je me suis trompé ? Non, c'est bien le fondateur du Monde Moderne ?
Oui, j'ai dit bonjour.
Ah oui, pardon, non. J'ai entendu juste non, en fait. Voilà,
comme
je me sens fondamentalement coupable de tout. Je me suis dit, ça y est, je me suis planté une fois de plus. Monsieur Poinaz va faire éruption dans le studio et me passer les menottes. On va parler d'une affaire immédiate, donc qui elle aussi est une affaire tragique, qui elle aussi est une affaire stupéfiante, qui elle aussi est une affaire étonnante, c'est l'affaire du meurtre de Quentin. Alors, je dis meurtre, la justice n'a pas encore qualifié les faits, me semble-t-il, on pourrait dire assassinat, mais là aussi, la justice n'a pas encore qualifié les faits. En fait, la justice, pour le moment, avance avec une sage lenteur, puisque... Donc pour rappeler les faits, Quentin, militant nationaliste lyonnais, a été roué de coups par plusieurs antifas qui ont soigneusement visé la tête à plusieurs reprises et donc qui ont réussi à l'expédier d'abord à l'hôpital, puis dans le coma, puis dans la mort. Et il est visible que c'est concerté, puisque quand quelqu'un est maintenu au sol et que plusieurs personnes lui déclenchent des coups de pied dans la tête, c'est sans doute pour le tuer, ou en tout cas, ils ne peuvent pas imaginer qu'il n'y aura pas d'effet secondaire indésirable. La justice, pour le moment, est toujours en train d'identifier les coupables. Donc ça tombe bien, puisque normalement, il y a eu plusieurs témoins, que les témoins ont déjà identifié plusieurs personnes, comme par exemple l'un des assistants parlementaires de Raphaël Arnault. La justice, là, n'a arrêté personne. Alors, évidemment, on est toujours un peu surpris de la sage lenteur avec laquelle la justice procède par moment, étant donné le fait qu'il a des témoins, le fait qu'il a des vidéos. Faisons confiance, bien sûr, à la justice. Mais malgré tout, Alexis Poulain, que pensez-vous de la manière dont la justice avance dans cette affaire par rapport à d'autres affaires où la justice avance plus vite ?
On comprend que la justice avance extrêmement prudemment, puisque, qu'on le veuille ou non, c'est une affaire politique. Et d'ailleurs, le parquet ouvre une information judiciaire pour homicide volontaire, violence aggravée et association de malfaiteurs. Mais le procureur s'est bien gardé de faire des commentaires politiques. Il a parlé d'affrontements entre groupuscules radicalisés. Donc je pense que la justice marche sur des œufs. Qu'elle va, j'espère, arrêter les odieux criminels qui ont tabassé à mort Quentin et que ce sont là simplement des mesures qui sont prises pour protéger l'enquête, sachant qu'il y a de nombreuses vidéos qui ont été prises, caméras de surveillance, mais aussi téléphone portable. Donc j'espère qu'il y a suffisamment de matériel pour identifier les criminels.
Et une fois plus, rappelons que comme les antifas ont l'habitude de taper ceux qu'ils appellent des fascistes, autrement dit tous les patriotes, et qu'ils le font avec une certaine impunité jusqu'à maintenant, ils finissent par avoir des visages qui sont connus, surtout à Lyon, où les antifas, célébrés longtemps par les pouvoirs publics et notamment la télévision et la radio publique comme étant de vigilantes vigies antifascistes, sont connus et répertoriés. Alors, je dis comme ça qu'ils ont l'habitude de taper, parce que quand on écoute Raphaël Arnaud et Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression que ce sont d'innocentes victimes. Le 25 avril 2025, une dizaine d'antifas de l'AFA Tolosa a agressé deux identitaires à Albi. L'un a souffert de nombreux hématomes, d'une entorse à la cheville, d'un traumatisme crânien. L'autre a vu son arcade ouverte par un coup de poing américain, ce qui lui a valu 8 points de suture et un traumatisme crânien également. Trois antifas ont été jugés et relaxés. Le 27 février 2025, à Rennes, des antifas ont lynché deux étudiants affiliés au RN devant la faculté de droit. Les images ont été filmées par un drone. Et pourtant, les cinq antifas ont été relaxés car le drone avait filmé en dehors de la zone autorisée et donc le tribunal a jugé que la preuve était irrécevable. Le 18 décembre 2025, Jean-Pierre, militant RN de 77 ans, a été agressé durant un tractage, hospitalisé plusieurs semaines après à la suite de complications. Son agresseur, Mathias Boussmar, doctorant et professeur chargé de TD en histoire de droit au sein de l'université de Nanterre, n'a pas encore été inquiété par la justice. Un commentaire, Xavier Van de Lierde ?
Oui, mais en fait...
J'en ai encore une tralée.
Vous parliez de sage prudence ou de le sage lenteur de la justice. En réalité, cette lenteur, moi, je la trouve absolument stupéfiante. Enfin, ce que je constate, je ne suis pas un spécialiste des procédures judiciaires et des enquêtes, mais ce que je constate, c'est que lorsque cinq identitaires se contentent de déployer une banderole dénonçant l'islamisme sur l'esplanade du Trocadéro, donc ils déploient simplement une banderole, ils craquent deux fumigènes, le lendemain, à 6h du matin... il y a des policiers qui se pointent au domicile de chacun d'entre eux pour des perquisitions, des interpellations. Ils finissent en garde à vue pour une banderole. Ici, il s'agit donc, comme le reconnaît la justice elle-même, puisque l'enquête a cet objet-là, d'un meurtre en bande organisée. Et plus de 3 jours après, il n'y a pas de perquisition, il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas de garde à vue.
Mais il y a un nombre de déclarations stupéfiantes de la part de Raphaël Arnaud, de Jean-Luc Mélenchon, de Rima Hassan et de Manuel Bompard pour expliquer que jamais, jamais les antifascistes n'ont été violents.
Mais au-delà de cette guerre des discours à laquelle on pouvait s'attendre, je suis quand même... Enfin, ça ne me surprend pas que l'extrême-gauche, depuis Mélenchon jusqu'à Sandrine Rousseau et pas mal de journalistes de services publics, fassent bloc derrière les antifas pour essayer de construire un contre-discours par rapport à ce qui s'est, semble-t-il, passé, aucune surprise. En revanche, que l'on laisse à ces agresseurs 3 jours de délai pour nettoyer leur téléphone portable, effacer éventuellement leurs disques durs, nettoyer leurs agendas, jeter leur répertoire, se concerter sur la façon dont ils doivent décrire ce qui s'est passé cet après-midi-là, etc., je suis quand même beaucoup plus mal à l'aise et beaucoup plus surpris. Je ne suis pas stupide au point de penser depuis très longtemps déjà que j'ai une confiance totale dans la justice de mon pays, mais là, vraiment, ça a atteint quand même des proportions complètement délirantes. Chacun sait que les perquisitions, les fouilles effectuées chez des suspects, c'est l'évidence même, sont d'autant plus fructueux qu'on ne leur laisse pas le temps de faire disparaître d'éventuelles preuves. Enfin, c'est totalement sidérant. Plus de 3 jours, vous vous rendez compte ? 3 jours après des faits dont on apprend qu'il y a des images de vidéosurveillance, des témoignages de victimes d'une part et de témoins, et il ne se passe toujours rien. J'ai trouvé d'ailleurs que le procureur de la République, lors de sa conférence de presse de cet après-midi, était extrêmement fuyant. C'est-à-dire qu'il est extrêmement fuyant et il avait organisé les choses de façon à ce qu'on ne puisse pas le solliciter trop et trop lui poser de questions, en tout cas publiquement, puisque par exemple, les questions des journalistes qui étaient dans la salle n'étaient pas sonorisées. C'est-à-dire qu'on n'entendait que ses réponses et pas les questions. Visiblement, il n'avait pas envie qu'on puisse lui en poser ou d'être mis en difficulté par ces questions auxquelles il répondait extrêmement peu. C'est une conférence de presse qui s'est passée en un temps absolument record pour une
très rapide
qui défraye quand même la chronique. Enfin, il y a une légitime émotion quand même de la population face à cet événement, et il traite ça d'un revers de main. C'est totalement sidérant, cette affaire fait la une de la presse, il s'agit quand même d'un meurtre, un gamin de 23 ans est mort, et on fait comme si c'était de l'ordre du quasiment du chien écrasé.
Sauf un gamin de 23 ans est mort pour des raisons politiques, assassiné volontairement par une bande, bande organisée ayant dressé un guet-apens, bande affiliée à la Jeune Garde et donc à la mouvance antifasciste, qui est en fait l'ensemble des nervis qui sécurisent les meetings de LFI, malgré les dénégations de LFI, puisque il suffit de lire les journaux qui disaient que la Jeune Garde était là, il suffit en fait de reprendre la littérature sur la Jeune Garde pour voir que la Jeune Garde était parfaitement insérée dans le système mélenchoniste de la France insoumise, et que maintenant d'ailleurs c'est même type de la Jeune Garde, on l'a vu, c'est assez amusant, notamment tous les candidats aux municipales qui affichaient clairement la Jeune Garde, mouvement prétendument dissous, et en fait en permanence réactivé, et y compris d'ailleurs par leur avocat qui publie un communiqué au nom de la Jeune Garde pour rappeler que le mouvement a été dissous, et justement c'est parce que le mouvement est dissous qu'il publie un communiqué, bon ça on va laisser tomber, et donc tous ces candidats aux municipales suppriment brusquement du jour au lendemain les mots de la Jeune Garde qu'ils affichaient fièrement.
Oui, Raphaël.
Absolument. Il faut peut-être aussi rappeler ici. Pardon.
Oui. Non, mais je disais que Raphaël Arnaud.
Marie Pinsard.
Oui.
Qui va parler très fort dans le micro.
Ah, bah, elle va hurler même. Raphaël Arnaud était le premier à dire que la Jeune Garde était un mouvement qui était nécessaire pour protéger et sécuriser les manifestations antifascistes et si en particulier celles de LFI. Hein. Il a mis d'ailleurs beaucoup de temps à réagir alors qu'il est l'un des premiers à être visé. Parce qu'à partir du moment où on est le fondateur et le coordinateur d'un groupe, on a des comptes à rendre. Je crois qu'il a mis 3 ou 4 jours avant de réagir en disant que c'est quand même malheureux qu'un jeune homme est mort. Hein. C'est vraiment pas de bol. Donc c'est très mitigé. On voit Libé qui parle en ce qui concerne du jeune Quentin et de ses amis d'une forme de milice. Mais la milice, c'est clairement la Jeune Garde qui a une méthode de milice, qui est donc une méthode finalement fascisante. Donc il y a tout un vocabulaire comme ça qui inverse l'accusation. Et on a le sentiment, évidemment, les écoutant, que c'est les antifascistes, c'est quand même plutôt du côté de Quentin, qui sont venus provoquer l'extrême gauche. Et je crois que, d'une certaine façon, cette extrême gauche, elle en est persuadée parce qu'ils se comportent un peu comme des enfants Montessori. À qui on dit non, je ne suis pas d'accord, et qui le vivent comme une frustration, parce que pour eux, non, c'est pas OK. On leur a dit à un moment que leur manifestation n'est pas OK, qu'il va falloir accepter un avis contradictoire, et comme ils sont incapables, d'une part, de l'accepter, d'autre part, d'argumenter, c'est uniquement la violence qui leur sert de porte-drapeau et de porte-parole, en venant ensuite se victimiser, puisque en provoquant eux-mêmes, ils risquent effectivement certaines rixes, ce qui n'est pas le cas ici, hein, puisque c'est bien un guet-apens, les images le montrent, hein, on attire très courageusement à une dizaine de personnes cagoulées des 3 jeunes gens, et on défonce le crâne de l'un d'eux en toute impunité.
Alexis Poulain, Xavier Vandelier.
Non, mais Alexis, allez-y si vous voulez. Mais...
Oui, c'est-à-dire que les images sont affreuses et les méthodes sont scandaleuses. Et cette lenteur de la justice pose question, évidemment, sachant qu'on a affaire à des individus qui ne revendiquent pas, évidemment, leurs crimes, hein, cagoulés et en fuite. Or, ce sont des pratiques malheureusement trop vues. Ça soulève un autre sujet important, c'est l'absence de dispositifs de force de l'ordre à ce moment-là. Alors même que j'imagine qu'il y avait eu des alertes au niveau de la préfecture pour dire qu'il y avait des groupes justement antifa qui se préparaient pour aller à l'assaut de Némésis. Donc
rappelons que l'un des antifa est devenu commissaire. Il y a l'un des antifa de la ville d'Angers est maintenant commissaire à Angers. Donc si jamais on a envie de savoir quelle est l'une des carrières possibles quand vous commencez comme antifasciste à casser la gueule des nationalistes, eh bien vous pouvez terminer policier. Eh bien, et commissaire.
C'est, voilà. Bon, voilà, c'est la voie royale.
C'est la voyoucratie, oui.
C'est étonnant. Donc, oui, moi, ça me pose la question, effectivement, du rôle aussi, enfin, de l'erreur de jugement de la part de la préfecture, ou au moins de la ville de Lyon. Enfin, quelque chose aurait dû être fait pour éviter cet affrontement.
Alors, et évidemment, la manière... Pardonnez-moi.
Oui, non, je voudrais réagir à plusieurs choses que nous avons dites ici. Que les liens entre LFI et la Jeune Garde ne sont plus à démontrer, que la Jeune Garde serve de milice à LFI, ce n'est plus à démontrer non plus. Et je voudrais revenir sur cette idée qu'ils font courir, qu'ils seraient certes une milice, mais d'autodéfense. Ce n'est absolument pas exact. En réalité, ces gens sillonnent les rues à la recherche de proies, et c'est ce qu'ils ont fait ce jour-là en se disant que c'était un jour propice pour en trouver une, mais ils peuvent sillonner les rues de Lyon à la recherche de proies en permanence, s'en prenant par exemple à tel ou tel jeune, parce que au hasard des rues, ils le découvrent avec un sac scout, ou par exemple, il y aura un drapeau français. C'est-à-dire un drapeau tricolore, c'est déjà trop pour eux, hein. Par ailleurs, cette appellation d'antifasciste, enfin, cette milice, donc non seulement agresse tous ceux qu'elle suspecte de fascisme, et le fascisme pour eux ça commence par tous ceux qui ne sont pas comme eux, et à tel point d'ailleurs que au-delà de faire la chasse aux militants identitaires ou à ce qu'ils appellent l'extrême droite, ils ont été déjà utilisés à plusieurs reprises par LFI, semble-t-il, en tout cas téléguidés, pour s'en prendre à des adversaires de la sphère de gauche, mais qui posaient problème à M. Mélenchon. Exemple, lors de la fête de l'humanité, c'est un groupe d'antifa qui est venu huer copieusement et empêcher de parler M. Ruffin, parce que c'était le moment où ça commençait à aller mal entre Ruffin et la France insoumise. Et donc, lorsque Ruffin souhaitait parler, ils se sont tous mis à chanter, à lancer leur slogan « Nous sommes tous antifascistes, nous sommes tous antifascistes » pour l'empêcher de parler. Façon de l'intimider par le nombre et une attitude hostile. De la même façon, lors d'une manifestation, je ne sais plus laquelle, les images ont été remises en ligne par F de Souche cet après-midi, le site F de Souche, eh bien, ces antifascistes ont littéralement démonté entièrement, je pense que c'était pendant un mouvement social, un stand du mouvement Front Populaire, je crois, de Kousmanovitch, qui est un dissident de LFI, qui n'acceptait pas la nouvelle ligne islamo-gauchiste et diversitaire et de la créolisation, mais qui restait un souverainiste cohérent, et qui donc a vu son stand entièrement démonté par les antifascistes. Donc ce sont réellement des hommes de main, en réalité. Hein. Ce n'est pas un service d'ordre, ce sont des hommes de main qui font des opérations punitives contre tel ou tel, et même de façon extrêmement ciblée parfois. Voilà ce que je voulais rappeler. On n'est pas face à une sorte de service d'ordre avec des gros bras qui, de temps en temps, peuvent déraper. Non, c'est un groupe paramilitaire.
C'est un groupe d'attaque. C'est un groupe d'attaque. En août 2025, les antifas ont collé des affiches avec les visages des militants de la Cocarde et de Défend Marseille, en dévoilant des informations personnelles, leurs adresses, leurs numéros de téléphone, et avec marqué « On te croise, on te fume ». Voilà, donc... on n'est pas vraiment dans la défense. C'est assez fascinant parce que Sandrine Rousseau, elle explique que quand un pays bascule dans l'extrême droite, on est en train de parler de la France de Macron, donc on va laisser Sandrine Rousseau à ses analyses brillantes. Eh bien, il est bien normal que par inquiétude, les vigilants défenseurs de la démocratie puissent se laisser aller face aux provocations de l'ennemi à se défendre un peu vigoureusement. Donc, vous avez parfaitement raison de souligner, Xavier Van Lierde, que l'un des axes de défense de cet acte abominable, rappelons-le, donc un jeune garçon roué de coups en ayant l'intention de donner la mort, est en fait présenté comme étant pas du tout une défense face au péril que connaîtrait la démocratie.
Mais ce sont des méthodes terroristes, de toute façon. Je pense qu'on peut même les appeler des terroristes. Au-delà de la milice armée, au-delà des milices paramilitaires surentraînées, c'est une forme de terrorisme auquel l'extrême-gauche nous a habitués, et ça depuis quasiment la Révolution française. Hein. Donc, je ne vais pas tirer des ramifications ou des racines ou simplifier les choses, mais bon, si on pense la mécanique de la terreur dont s'inspirent beaucoup de mouvements dictatoriaux à travers le monde de gauche, et en particulier, si on songe au maoïsme, etc., mais les Khmers rouges, ce sont ces mêmes méthodes finalement, puisqu'il y a des filiations qui sont revendiquées eux-mêmes par LFI et par leurs sbires. Donc le but est bien d'amener la terreur pour conformer à leur vérité, à ce qu'ils imaginent être la réalité, une partie de la population, d'où aussi le fait de ne supporter absolument aucune contestation qui est vue comme quelque chose d'inique, comme un espèce de péché originel à leur idéologie.
Ce qui me frappe aussi quand même, c'est la forme, je pense que la complicité d'un grand nombre de gens très installés, c'est-à-dire à la fois de la complicité ou de la complaisance de la justice. C'est-à-dire, vous avez cité un grand nombre d'agressions qui ne sont jamais suivies de condamnation, une grande complaisance aussi de nombreux médias, notamment de services publics à leur égard, qui en parlent de façon enamourée. Il y a eu un reportage absolument sidérant, avec très longue interview de Raphaël Arnaud, à l'époque où il était le leader de la Jeune Garde, donc avant qu'il devienne député. Et c'est un reportage comme si c'était vraiment merveilleux, cette jeunesse qui s'engage sur Public Sénat. Ce reportage était sur Public Sénat. Dans un autre reportage qui était de France Télévisions, il y a une sorte d'apologie de la méthode des antifascistes qui consiste, là aussi on n'est pas dans le service d'ordre, à ficher l'ensemble de leurs adversaires politiques dans la ville de façon à pouvoir se tenir prêt à intervenir et à les châtier si nécessaire. Alors, on est quand même un mouvement qui fiche des citoyens de leur ville de façon à pouvoir les identifier et les châtier. Et voilà, ce reportage présente ça comme voilà ce qu'ils appellent autodéfense en réalité. Le fichage en prévision de tabassage d'adversaires politiques.
Ce sont des méthodes terroristes.
Et cette complaisance vient, à mon sens, souligner que, au-delà d'être la milice de LFI, en réalité, pour une part, dans l'inconscient collectif en tout cas, ce mouvement est aussi une forme de milice du régime. Alors je m'entends, ça ne veut pas dire que les ordres viennent de la préfecture ou de tel ou tel ministère ou de tel ou tel parti d'extrême-centre. Néanmoins, l'idéologie, le fond de l'idéologie de notre régime aujourd'hui, c'est l'idéologie diversitaire, c'est l'idéologie mondialiste, c'est le sans-frontiérisme, c'est la dissolution de la nation, c'est la mauvaise conscience identitaire, et ce mouvement-là radicalise ce discours-là et en fait le sens de son combat. Et je pense que cette parenté et ce lien est parfaitement ressenti par beaucoup de gens, à la fois dans les médias, dans les universités, et jusque dans tout l'appareil d'État, en réalité, on les voit avec une forme de tendresse. En réalité, une forme de tendresse, et au-delà de la complaisance, ça confine quand même à la complicité en nombreuses occasions. Voilà. Et lorsqu'ils commettent donc ces violences de façon délibérée, qui sont une fois de plus théorisées, hein, on ne peut pas dire que ça a mal tourné. C'est-à-dire que quand on en a pour slogan « pas de fachos dans les quartiers, pas de quartier pour les fachos », « un facho, une balle » et ce genre de choses... On te croise, on te fume. C'est que la violence est absolument revendiquée. Ce n'est pas du folklore, car il passe de surcroît à l'acte régulièrement. Et pourtant... Une procédure maintenant de dissolution, mais au bout d'années et d'années, et les condamnations sont extrêmement rares. Et lorsque la condamnation a lieu, il n'y a généralement pas derrière de condamnation morale. Alors peut-être que l'assassinat de Quentin va être, de ce point de vue, un tournant. Il faut l'espérer. Mais il faut aussi espérer qu'on ne se contente pas de dire « Ah, bah, y a quelques nervis, on va s'en prendre à eux ». Non, il faut tirer sur la pelote pour voir jusqu'où vont les complicités avec ces gens. On a vu la personne dont vous avez parlé qui a agressé ce militant du Rassemblement National à Paris, une personne de 76 ans, hein, quel courage par ailleurs,
et donc Mathias Boussemar.
Voilà, est enseignant à l'université. Jusqu'ici, il n'a pas été ni convoqué par la police, ni par les autorités académiques, ni par le président de l'université. Le ministère de l'Éducation de l'Enseignement supérieur fait comme s'il ne s'était rien passé. Enfin, imaginez deux minutes le contraire, bon sang de bois. Deux minutes. C'est inimaginable. La complaisance et l'impunité dont jouissent ces personnes.
Alexis Poulain, vous vouliez réagir aux propos odieux de Xavier Van Lierde?
Pas du tout. Non, par rapport à cette violence en politique qui n'est pas nouvelle, parce que je pense que cette guerre, en fait, entre des groupuscules, Antifa et les autres, rappelez que de l'autre côté, il y a eu le GUD, hein, qui a été dissous, puis remis, etc. Mais aussi le Bastion Social, hein, qui était à Lyon, les Ouaves Paris, enfin bref, tous ces mouvements...
Alexis,
oui.
Ne, par pitié, ne tombons pas dans le piège de « il y a des extrémistes à droite et à gauche ».
Justement, laissez-moi dérouler, hein. Laissez-moi dérouler parce que c'est, j'allais y venir. Il y a un piège là qui est en train de se tendre, de contrôle, enfin de prise en tenaille, à la fois sur une réduction du champ politique en fait, en disant effectivement les antifas sont condamnables et d'ailleurs ce groupe était soi-disant dissous, fait des communiqués, enfin c'est incompréhensible, donc à se demander ce qu'il fait et la question de la proximité effectivement de la France insoumise avec ce groupuscule est à creuser, et là c'est le travail encore une fois des enquêteurs et de la justice. Maintenant sur cette violence politique, elle n'est pas nouvelle, elle est simplement réinventée d'une certaine façon, mais s'ajoute à ça la volonté de contraindre la parole publique. Hein. On a vu les déclarations d'Emmanuel Macron ce week-end, la façon dont il veut interdire, cadrer vraiment le discours politique, la censure des réseaux sociaux qui va s'accélérer avec la présidentielle de 2027. Moi je trouve qu'il y a un climat terrible en France, à la fois de violence réelle, fasciste, et à la fois de violence politique avec ces lois qui vont petit à petit réduire le champ politique et donc aussi laisser libre cours à la violence. Parce que c'est pas parce que l'État décide de dissoudre que les fachos, les groupuscules, les violents vont se dissoudre. Ils restent et ils s'organisent autrement. On le voit bien avec la Jeune Garde, hein, soi-disant dissoute, et c'est eux qui assassinent Quentin jeudi dernier. Donc il y a un vrai problème de fond, et encore une fois, un problème politique de dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce laxisme judiciaire et qu'est-ce qu'on fait si la seule réponse à ça, c'est la censure de la parole politique. Là, on a un vrai problème en France.
Un des rôles de la Jeune Garde, précisément, est de censurer la parole politique. C'est-à-dire que lorsqu'ils écument aussi les facultés et font pression sur tout étudiant dit de droite ou patriote de façon à ce qu'il ne puisse pas s'exprimer, eh bien, il vient contraindre l'émergence d'une autre voie que celle qui est autorisée. C'est-à-dire que c'est réellement l'opposition patriotique en France qui est brimée, et notamment dans les universités, par ces nervis-là. C'est-à-dire que ils sont là aussi le bras armé qui vient empêcher par la force et par la violence la possibilité d'émergence d'une alternative au discours commun, qui est donc diversitaire, mondialiste, post-national, on connaît ça par cœur.
Toute la liste, ouais.
Alors, je voudrais...
D'ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve de manière encore plus exacerbée aux États-Unis, hein, avec ces groupements antifa qui ont été déclarés terroristes, justement, par l'administration Trump, et les facultés américaines qui sont encore plus dans la censure de la parole. Hein, et ça, c'est grâce à l'école française. Donc, si on a exporté un truc, c'est ça, hein, c'est cette volonté de censure qui revient chez nous ensuite via Chavalerias du CNRS et tous les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez terrible, où on voit qu'il y a quelque chose aussi international, pas seulement de l'état du pays en France.
Et on peut parler d'ailleurs des financements invraisemblables dont bénéficie la galaxie Antifa de façon globale, à part de
personnalités. Avec les fondations Soros, bien sûr.
Les fondations Soros, voilà. C'est-à-dire que faut pas croire que ce sont des petits épiphénomènes spontanés. Ces gens-là sont les idiots utiles de gens beaucoup plus puissants qui ont décidé de tirer un trait une bonne fois pour toutes sur la nation et sur ce qu'elle peut représenter. Ils sont le bras armé de gens qui prônent un autre modèle, un modèle post-national, et donc voilà, on parle beaucoup d'ingérence étrangère, d'infiltration, toutes les cinq minutes. Les antifas sont clairement instrumentalisés par des galaxies qui, elles, sont internationales, qu'on peut identifier. Soros ne s'est jamais caché de financer la galaxie Antifa et de s'en servir comme groupe d'assaut contre tous les gens qui les dérangent. Et ça peut, lorsqu'on parle, il faut bien réaliser où l'on en est. C'est-à-dire qu'on croit que c'est la même chose que les bagarres d'étudiants d'antan. Pas du tout. Ces gens pesaient sur l'université une chape de plomb absolument effroyable, qui pèse à la fois sur les autres groupes qui peuvent être identitaires ou autres. Mais on parle des identitaires parce que ce sont les seuls qui osent les affronter, qui relèvent la tête. Mais en réalité, ils arasent totalement le discours à la fois chez les étudiants, mais ils font également pression sur les professeurs. C'est-à-dire que ce sont vraiment des groupes menaçants
on l'a vu. On l'a vu à Sciences Po, ça a été particulièrement violent ces dernières années. Ça va tellement loin que moi, ce qui m'avait fait rire, c'était que François Hollande, et quand même pas non plus, s'était vu chahuté parce qu'il venait faire une conférence dans une université française, à Lille, je crois. Voilà, donc c'est vraiment la volonté d'empêcher toute parole publique, quelle qu'elle soit, d'une certaine façon. Donc, on a un vrai problème. Et on voit qu'il est pire encore aux États-Unis, mais qu'il est sur la même ligne.
Oui, il est sur la même ligne. Et là aussi, en fait, ce ne sont pas que dans les facultés. Parce que l'inénarrable Jean-Luc Mélenchon, qui a expliqué que c'était lui et ses affidés qui étaient les véritables victimes et que c'était à cause des autres qu'il y avait un climat de terreur en France, explique notamment que les permanences de LFI ont été visées par des jets de faux sang et que c'est absolument intolérable. Et alors, là aussi, il suffit de regarder l'Observatoire des violences politiques, excellent compte Twitter, que je conseille à tout le monde. La permanence de Céline Porquet, candidate RN aux élections municipales de Bourg-Saint-Andéol, a été victime de deux attaques de l'extrême gauche en l'espace de 10 jours. Le 4 décembre, des excréments ont été retrouvés sur la vitrine du local. Le 10 décembre, des militants d'extrême gauche ont tenté de forcer la serrure pour saccager la crèche. Voilà. Et la vitrine a de nouveau été dégradée. La permanence du candidat LR Marc-Antoine Quenette a été taguée. Les murs de la salle des fêtes du quartier de Saint-Trézène le 24 janvier à Niort, qui devait accueillir la réunion du RN le même jour à 15h, ont été tagués. Les militants d'extrême gauche ont manifesté et perturbé la réunion qui doit être écourtée. Et un drapeau LFI a été brandi. Donc, autrement dit, ce n'est pas que dans les facs, c'est toute la population. Voilà, c'est sur les marchés. Il suffit d'ouvrir une permanence pour qu'elle soit taguée, dégradée. Même Guillaume Richer, candidat RN dans la commune d'Alenia, a subi une tentative d'incendie à son domicile. Voilà, vous avez raison de le souligner, Xavier Van Lierde. Quand on a comme slogan une faf, un faf, une balle, ben évidemment, il y a un moment donné où on peut pas parler de dérapage ou d'action incontrôlée. Non, il y a une volonté en fait d'éradication.
Mais même le Conseil de l'UE, bon, qui n'est pas particulièrement souverainiste, on peut s'en douter, en classant les risques, alors là je parle de terrorisme bien sûr, mais encore une fois c'est quand même une forme de terrorisme, a dû reconnaître au bout d'un moment qu'il y avait beaucoup plus d'attentats d'extrême gauche que d'extrême droite. Donc, si même l'UE commence,
qu'il n'a pas d'extrême droite.
Si même l'UE commence à nous le dire, c'est que vraiment on doit être à un niveau évidemment bien supérieur à la moyenne.
Faut vraiment réaliser que ces gens-là, on n'est pas dans une sorte d'affrontement entre les plus radicaux de droite et les plus radicaux de gauche. Ce sont des gens qui s'en prennent. Par exemple, un professeur qui a une vision un peu intransigeante de la laïcité, notamment par rapport à la montée de l'islamisme, il sera une cible des antifas. Sylviane Agacinski, féministe historique, s'inquiète des dérives du néo-féminisme. Elle ne peut pas tenir de conférence. Intervention des antifas, risque de trouble à l'ordre public, c'est interdit. Alain Finkielkraut, académicien, qu'on ne présente plus, doit faire une conférence à Sciences Po Paris, menace des antifas, difficulté, et je pense, si je me souviens bien, annulation de son intervention. Marguerite Stern, auteur d'un livre critique sur le transgenrisme et la façon dont un certain nombre d'enfants sont conduits par des idéologues fous à changer de sexe alors qu'ils ont probablement d'autres problèmes, et c'est évidemment irrémédiable. Critique de ce transgenrisme a dû annuler un nombre invraisemblable de présentations de son livre également. Donc on n'est pas dans juste quelques jeunes de 18 à 20 ans pleins de testostérone et qui ont besoin de se prouver des choses en marge de tel ou tel meeting ou de tel ou tel amphithéâtre. C'est vraiment un groupe qui fait peser une menace majeure sur le libre débat démocratique dans notre pays. Alors, il est vrai que leurs cibles sont souvent des gens dits de droite nationale, parce que ça les excite plus particulièrement. Mais je pense personnellement que si on se focalise là-dessus, on ne voit que la part la plus infime de leur impact, c'est-à-dire qu'on est au courant de ces actions-là, parce qu'en face, il y a des gens qui résistent. Mais si on devait faire le compte de l'ensemble, je vais prendre un exemple. Le compte des gens de gauche qui restent attachés à la nation, qui au sein même de LFI, par exemple, auraient une tendance plus souverainiste, plus national à l'ancienne, et qui n'ose pas, qui n'ose plus prendre la parole, parce qu'en fait, ils sont sous la menace de la dénonciation de ces gens, voire de se faire casser la figure par cela, eh bien, on prendrait la juste mesure de ce qu'ils font peser sur la société, et qui, à mon avis, explique qu'ils intéressent très largement des gens qui ne sont pas des plaisantins, comme George Soros. Lui connaît l'impact que ces gens-là ont sur l'évolution d'une société, de son enseignement, de son débat démocratique, l'évolution des idées qui ont cours ou non dans un pays. Car désormais, pour avoir des idées qui froissent ces gens-là, il faut énormément de courage. Or, eh bien, le courage n'est pas si bien partagé, malheureusement.
Eh bien, je crois que pour le moment, on a fait un peu le tour. Enfin, sauf si Alexis Poulain veut encore intervenir, on a fait un peu le tour de Quentin.
Oui, sur Quentin, mais sur le, ça va au-delà, puisque vous savez qu'il y a, même toute une presse morale qui se fait arbitre des élégances et qui ne voudrait que je ne sois pas chez vous, par exemple, Radio Courtoisie ou chez TVL ou ailleurs, parce que c'est interdit, ça, vous voyez. Et ben, moi, je trouve ça insupportable, cette idée de vouloir limiter. Encore une fois, c'est vraiment contraindre et vouloir mutiler le débat public et alors qu'on a la chance de pouvoir le faire. Et ça, c'est quelque chose qui a infusé pendant des décennies, qui a valu les belles heures du Parti Socialiste. Mais ça fait partie aussi, je pense, de se laisser faire, en quelque sorte, et la façon dont les antifas ont été couvés avec des yeux d'amour par les médias publics.
Oui, parce qu'ils obtiennent la même chose, mais par d'autres moyens.
Bah, des moyens plus radicaux, violents.
Voilà, impactant, voilà. Comme dirait Jean-Luc Mélenchon.
Impactant. Voilà. Et donc, évidemment, donc, les auditeurs de Radio Courtoisie, quand Mathieu Slama explique que la violence n'est pas d'extrême-gauche, évidemment, ricanent. Et il y en a un qui rappelle, évidemment, la manière dont les brigades rouges italiennes ou la bande à Bader, etc., ont été très clairement à gauche, soutenus par la gauche, célébrés par la gauche et... ils sont allés franco de port, on est en train de revenir à ces années de plomb-là.
J'espère pas, ça n'ira pas aussi loin quand même.
Ça a l'air...
C'est pas sûr, c'est absolument pas sûr.
On a l'impression que ce sont les prolégomènes d'une période...
De toute façon, ce qui se profile...
Personnellement, quand l'extrême-gauche explique que c'est la droite qui sème la guerre civile, ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est qu'elle-même est en train de la préparer.
Bah, ils veulent aller à l'affrontement, c'est le but, en se victimisant derrière. D'ailleurs, il y a quelque chose, moi ça m'a fait penser à une parole qui est assez révélatrice de ce qu'est en fait la violence d'extrême gauche au nom de l'idéologie, gangrénée par l'idéologie. J'ai un péché un peu coupable qui est celui des affaires de faits divers que j'apprécie particulièrement. Il y a une affaire qui a défrayé la chronique que j'ai redécouvert il y a quelques temps, qui est donc l'affaire Florence Ray, Audrey Maupin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est.
Moins de 20 ans ne peuvent pas savoir, mais moi je m'en souviens.
C'était genre. Je crois que c'est dans les années 90, où deux jeunes, fac de Nanterre, bien sûr, pas non plus, c'est pas l'assas, on se doute bien, ont pris en charge, ont pris à joue, ont volé des armes et ont fait une virée macabre à Paris en voulant clairement tuer du flic, notamment, et le jeune homme a fini par être abattu, je crois. Et son père, et fort légitimement, il était triste, on peut s'en douter, là n'est pas la question, mais il a eu cette parole qui, moi, m'a frappée et m'a choquée. Je me suis dit, OK, l'extrême gauche, l'idéologie et la violence, c'est ça. Il a dit que son fils, évidemment, n'aurait jamais fait de mal à une mouche par ailleurs. Il disait sûrement bonjour à son voisin, mais là n'est pas la question. Mais il avait pris en otage un chauffeur de taxi qui se trouvait être noir. Et il l'a battu. Et ça a surpris son père. Ce qui a surpris son père, ce n'est pas le fait qu'il abatte un chauffeur de taxi pour arriver à ses fins, mais il a dit « Mais mon fils n'aurait surtout jamais abattu un homme noir. » Ça, j'ai trouvé ça, mais je me dis « Mais... » Donc, on juge les gens selon, non pas ce qu'ils font, mais selon ce qu'ils sont. Et l'idéologie va très loin. C'est-à-dire que il voit dans l'autre, alors si on n'est pas d'accord, un contestataire, et c'est pour eux c'est trop frustrant, Et puis, elle est en minorité, il y a leur petit prolétariat qui soigne. Et non, il n'aurait jamais tué sur un homme noir. Un homme blanc, oui, oui, manifestement, oui. Mais un homme noir, jamais. Donc là, il ne comprenait pas le geste. Et je trouve que c'est assez révélateur, finalement, de l'idéologie et des combats de l'extrême gauche et des supposés antifas.
On va rester là pour le moment sur cette affaire Quentin, mais évidemment, j'espère qu'on pourra en reparler, soit pour solliciter du travail de la justice, soit au contraire pour se désoler de sa lenteur, soit pour se féliciter que la classe politique réagisse intelligemment, soit au contraire pour souligner à quel point l'extrême gauche a table ouverte dans les médias du service public et les grands médias. Il s'est passé à Munich un événement tout à fait frappant. Marco Rubio, donc ministre des Affaires étrangères états-unien, est venu et a parler de sécurité. Alors l'année dernière, c'était Jed Vance qui avait expliqué que l'Europe était pourrie, et là Marco Rubio l'a expliqué un peu différemment, en expliquant que bien sûr la jeune Amérique serait toujours la fille de la vieille Europe, mais la manière dont il l'a raconté était un peu spéciale. Et d'abord, évidemment, une partie des Européens qui lui ont réservé une ovation, ils ont trouvé qu'il était bien plus poli que J.D. Vance, a malgré tout tordu le nez, notamment la chef de la diplomatie européenne, qui trouvait insupportable que des Américains viennent parler de problèmes de civilisation, de perte de puissance, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle est énervée pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que partout où Marco Rubio expliquait à quel point l'Amérique nous avait aidés, on pourrait au contraire considérer que l'Amérique fait partie de ceux qui nous ont enfoncés, et d'abord en créant l'Europe. Et j'ai aussi remarqué quelque chose qui est assez amusant. Quand Marco Rubio nous parle de l'Europe, il nous dit « C'est un continent qui a produit Mozart et Beethoven, Dante et Shakespeare, Michelangelo et Da Vinci, les Beatles et les Rolling Stones. » C'est la chapelle Sixtine, la grande cathédrale de Cologne. Et il a cité à peu près toute l'Europe sauf la France. Comme s'il n'y avait pas de cathédrale en France. Comme s'il n'y avait pas d'écrivain en France. Comme s'il n'y avait pas de peintre en France. Et en fait, je crois que ce que Marco Rubio nous dit, c'est véritablement, une fois de plus, deux choses. D'une part, l'Europe est notre vassal, et ce qui nous désole, c'est que, parti comme vous êtes, vous risquez de tomber dans les escarcelles des autres. Et d'autre part, méfiez-vous de la France et embrassez l'Allemagne, avec d'ailleurs Emmanuel Macron, qui est tout prêt, une fois de plus, à céder l'arme nucléaire à l'Europe et à en dépouiller la France. Et donc, une fois de plus, Marco Rubio vient nous annoncer que la France est le véritable ennemi des États-Unis.
Vous êtes un peu rude quand même, je trouve, Richard de Sèze.
Non, mais d'habitude, je suis très subtil, mais là, non.
Alors, voilà, enfin, j'ai lu le discours de Marco Rubio, j'ai vu beaucoup de choses très intéressantes. C'est-à-dire que dans le diagnostic, moi, je signe des deux mains, vraiment. Hein, c'est-à-dire qu'il commence par nous expliquer que la fin de l'histoire était une illusion, et que les civilisations existent, les différentes civilisations existent, que on s'est trompé en promouvant un libre-échangisme débridé, que les nations restent les acteurs principaux des relations internationales et du destin des peuples, tout ça est très vrai, que en conséquence il aurait été plus malin de maintenir un ensemble de frontières à la fois pour civiliser le commerce et éviter que la concurrence déloyale crée des ravages sur l'industrie. Il rappelle la nécessité pour l'Occident de se réindustrialiser, de faire attention quand même à son droit à la continuité historique, en évitant le grand remplacement des populations européennes par des populations venues d'ailleurs. Tout ça est extrêmement juste. Il explique avec une certaine justesse aussi que ces enjeux ont été perçus par le peuple américain et bien entendu par l'administration Trump. Mais là où ça devient évidemment extrêmement désagréable, c'est que dans un second temps, il explique que ces prééminences dans la lucidité des États-Unis obligent en quelque sorte les Européens à devenir de façon mécanique ou à continuer à être les vassaux de l'Amérique. C'est ça qui est... Enfin, moi, je suis d'accord avec le diagnostic, mais ce qui est fascinant, c'est de voir que les Américains nous expliquent étaient auparavant, avant la victoire de Trump, les apôtres du monde que dénonce maintenant Marco Rubio et exigeaient pour les mêmes raisons que nous soyons leurs vassaux. C'est-à-dire que nous devons tout le temps être leurs vassaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur obéisse. Auparavant, il fallait qu'on leur obéisse. En fait, il n'y a qu'une chose. Lorsqu'ils changent de discours, et une chose qui ne change pas, l'Europe doit être le vassal des États-Unis. Voilà. Et ça, évidemment, c'est extrêmement pénible à entendre, et ça a par ailleurs des conséquences. C'est-à-dire qu'il explique que dans le cadre de ce nouveau monde plus conflictuel, il est nécessaire pour l'Europe de soutenir les efforts de réarmement industriel, moral et autres de l'Occident, sans expliquer, ou plutôt en le sous-entendant, que ça signifie donc voilà, de devenir vassal et d'aider l'Amérique en réalité à maintenir son leadership sur cet Occident. Or, moi, je pense réellement que l'Europe ne constitue pas tout à fait la même civilisation que celle des États-Unis et qu'il y a d'autres voies stratégiques que celle d'être le second de cet empire transatlantique. Il est tout à fait possible pour l'Europe d'avoir, dans un monde multipolaire, on peut faire une autre lecture de ce monde où de nouvelles puissances sont nées, eh bien c'est un monde réellement multipolaire où l'Europe pourrait nouer une multitude de partenariats différenciés, tantôt avec les États-Unis, bien sûr, hein, moi je n'entends pas qu'on rentre en guerre avec les États-Unis, mais également, pourquoi pas, avec l'Inde, et avec la Russie, et avec tout autre pays, y compris des pays plus petits. Il n'y a pas de raison de se fermer à toute possibilité. C'est-à-dire que dans ce monde multipolaire, l'agilité et l'intelligence et la capacité à jouer simultanément sur plusieurs échiquiers, surtout lorsqu'on n'est pas le plus fort, eh bien, à mon avis, est déterminante à la fois de l'indépendance, de l'autonomie et du maintien de notre puissance. Que les États-Unis, qui se rêvaient en puissance hégémonique, continuent à exiger de la soumission, c'est parfaitement normal, mais lorsqu'on est une puissance justement moyenne, à vocation mondiale, comme on définit désormais la France et probablement, malheureusement, aussi l'Europe, eh bien, dans ce cadre-là, lorsqu'on est dans une situation du faible au fort, eh bien, l'attitude intelligente consiste probablement à démultiplier ses partenaires pour retrouver des latitudes.
Voilà. Bah, c'est ce qu'il tente de faire d'une certaine façon. Quand il évoque implicitement une Europe des nations, c'est bien qu'il voit qu'une Europe hégémonique telle qu'elle est faite dans l'UE...
D'ailleurs, plutôt, hégémonique contre ses propres nations.
Oui, plus, contre ses propres nations, absolument. Constitue finalement un obstacle avec les relations aux États-Unis, en particulier économiques, hein, puisque ça fait un bloc qui souhaite rivaliser bien maladroitement avec les États-Unis et qui, à force d'essayer de trouver sa place entre... un monde de l'Est qui s'est reformé avec la Russie, la Chine, des alliances et une monnaie qui va concurrencer le dollar. Et d'un côté, donc, l'oncle Sam, l'Europe finit par ne plus ressembler à rien ou qu'à un fantôme. Donc pour eux, évidemment, l'intérêt, c'est de faire d'une Europe assez forte pour pouvoir être un marché économique sur lequel ils peuvent peser. En outre, il s'annonce aussi comme le VRP de l'OTAN. Hein, pour lui, il a son OTAN à continuer de vendre, un OTAN qui, d'ailleurs, depuis la fin de la guerre froide, aurait dû disparaître. Alors c'est vrai que c'est très ambigu. Je suis d'accord avec vous, le diagnostic est séduisant parce qu'effectivement, il est celui, le constat qu'on fait tous. La finalité, c'est de la diplomatie. Il a enrobé ça avec du sucre, hein, effectivement. C'est pas J.D. Vance qui est allé un peu à la texane, bien que je ne suis pas sûr qu'il soit texan, mais enfin bon.
Il est allé avec comme un Américain, en tout cas.
Oui, comme un Américain, voilà. Il rentre dans le saloon, il tire sur tout ce qui bouge, il dit au revoir et merci. Là, on a compris que voilà, on y va avec l'affect, nous sommes du même berceau, l'Amérique ne serait rien sans la France, enfin, en particulier la France. Hein. C'est surtout sans la France que l'Amérique ne serait rien. Peut-être pas oublier non plus que c'est grâce à l'intervention de la France que, contre les Anglais que les États-Unis ont réussi à devenir les États-Unis d'Amérique. Donc,
on va pas vivre sur cette... Sur ces 30 éternellement.
Non, mais c'est en tout cas le discours aussi de Marco Rubio. Hein. C'est ce qu'il a mis en avant.
Je voudrais entendre Alexis Poulain sur Marco Rubio, parce que j'ai l'impression qu'il est...
Moi aussi.
Voilà.
Je me tais.
Non, mais. Non.
Désolée.
Non, non. Ah non, non, mais finissez. C'est. Non, j'y vais. Enfin, ce que j'ai vu, c'est la vieille stratégie du good cop, bad cop, qui est bon, éculé, mais qui fonctionne à chaque fois. Donc, J.D. Vance, qui fait la leçon de manière très directe l'an dernier, en disant, bon, vous êtes condamné, de toute façon, vous faites n'importe quoi, et vous gouvernez contre vos peuples. Et puis, cette année, Marco Rubio, qui se dit, bon, finalement, ça tangue avec l'affaire Epstein, il va falloir un peu calmer tout le monde, rassurer nos chères élites transatlantistes qui sont passées par le Bilderberg, la Trilatère, et le programme des Young Leaders, et leur dire que, oui, ils sont extrêmement importants dans le dispositif de sécurité nationale américain. C'est 30 petites pages très politiques qui ont été publiées il y a de ça quelques mois par l'administration Trump, qui expliquent totalement tout ce qui est en train de se passer, que ce soit l'enlèvement de Maduro, la question iranienne, la façon dont l'Europe est traitée en vassal compliqué, parce que pas assez obéissant, finalement, mais... Il suffit de mettre Mark Rutte à la tête de l'OTAN et la centrale d'achat de l'armement américain repart avec 5% du PIB de chaque pays européen qui y sera consacré. Avec, je ne sais pas si vous avez vu, les Allemands qui veulent effectivement prendre le lead de cette Europe inféodée aux États-Unis. Merz ne s'en cache pas en voulant la première armée européenne, en souhaitant aussi développer le militaire plus sur le civil. Et puis là, les Allemands qui expliquent aux Français qu'il y a trop de dépenses sociales en France et qu'il faudrait quand même dépenser davantage dans l'armement. Sans compter qu'on a eu cet après-midi une alerte de certains responsables qui veulent préparer les populations européennes à une frappe russe dans je ne sais pas combien de temps, mais l'agenda reste le même, divisé pour mieux régner, et ce front de l'Est hein, qui sera notre troisième suicide, visiblement, ça reste le plan. Et de voir tous ces leaders, entre guillemets, hein, se lever et applaudir Marco Rubio, alors qu'ils sont ouvertement pris pour des cons, hein, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas très rassurant pour l'avenir de nos nations. D'autant plus que ça commence à retourner sévèrement sa veste. Il suffit de voir Bruno Le Maire qui explique que le Deep State, c'est la Commission européenne, il faut totalement changer et faire une Europe à plusieurs vitesses. Alors, ça fait longtemps qu'il y a cette théorie sur la table, hein, avec 6 pays, par exemple, qui seraient les leaders de je ne sais pas quoi, rien ne fonctionne. En matière de défense, c'est particulièrement flagrant. Il suffit de voir le projet du SCAF, qui est simplement un outil pour vendre les secrets défense de Dassault aux Allemands. Bon, bah, Dassault ne veut pas. Et heureusement que Dassault ne veut pas, parce que s'il y avait que Emmanuel Macron, ça ferait longtemps que ces secrets défense auraient été vendus aux Allemands. Donc on est vraiment loin du compte avec des gens qui ne sont que des traîtres dans des positions où ils ne travaillent pas pour l'intérêt national. Il n'y a qu'à voir les déclarations de M. Dufour, qui est à la tête de la Banque publique d'investissement, la BPI, qui expliquait que dans le concert des nations européennes et dans l'UE, parfois il faut savoir laisser de côté hein, l'intérêt national. C'est ce qu'on fait depuis 50 ans. Ça va aller peut-être, non, on va peut-être arrêter. Donc Marc Rubio, bah, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire il rassure, il cajole, et puis il explique aux vassaux quelle est leur place à la niche.
Et le dernier des vassaux, si je puis me permettre, c'est quand même la France, hein, qui est ce qu'on appelle dans le monde médiéval le vavasseur. Hein, donc, il a déjà un suzerain, c'est l'Allemagne, qui lui-même est vassal des États-Unis. Donc, autant dire que, évidemment, que Marco Rubio, il ne va pas s'adresser à la France. Hein, c'est évident que pour lui, ça ne compte pas, d'autant plus que Emmanuel Macron ne parle jamais de la France, il parle toujours de l'Europe, de la souveraineté de l'Europe. Il ne parle pas de la France. D'ailleurs, il pense qu'il faudrait peut-être abandonner, et ça, j'ai plus le discours en tête, mais il y avait des phrases quand même très choquantes dans son discours qui peuvent même être taxées d'anticonstitutionnelles, hein, puisque lui, qui doit être garant de la souveraineté de l'État, qui doit être garant de l'indépendance de la France, est en train de dire qu'il faut cesser de penser aux intérêts de la France pour penser aux intérêts de l'Europe. Rien que pour ça, il faudrait saisir le Conseil constitutionnel.
En fait, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il prépare la suite de sa carrière de malfaisance et sans doute dans les institutions européennes. Je vais citer la phrase hein, qui peut être une violation de sa mission constitutionnelle, puisqu'il a dit « Quand je parle de l'Europe qui doit être une puissance, je ne parle pas de la France ou de l'Allemagne qui doivent être des puissances, on doit agir en européen. » Or, je rappelle quelle est la mission du président de la République. Le président est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traité. Or là, il va au-delà du traité de l'Union européenne. Il est clairement en train de dire que la nation française, c'est embêtant pour la suite de sa carrière. Et donc, il va falloir, avec le plan Draghi d'ailleurs, hein, qui ne dit pas son nom, qui est simplement l'Europe fédérale qui ne veut pas avancer à découvert et qui utilise tous les stratagèmes pour ne pas parler de fédéralisme, là où déjà hein, la Commission européenne s'arroge des pouvoirs qu'elle n'a pas. Donc là, on a affaire avec Emmanuel Macron à quelqu'un de très dangereux pour nos intérêts nationaux.
Absolument.
Et personne n'agit pour en limiter la portée.
Alors que là, très clairement, on est sur un cas constitutionnel qui pourrait l'amener à la destitution. Enfin, c'est, je veux dire, juridiquement, c'est implacable. Mais
et que font les partis d'opposition ?
Bonne question.
On aimerait savoir.
Ils ont piscine, ils ont aquaponé.
Alors, donc, il y a eu la France Insoumise hein, qui a quand même lancé une procédure de destitution qui n'avait aucune chance, hein, mais ils l'ont fait, voilà. Le problème, c'est que derrière, vous avez des partis d'opposition qui ne s'opposent pas et qui laissent faire. Et donc, Emmanuel Macron a vraiment les pleins pouvoirs pour faire des choses au nom de la France qui sont contraires aux intérêts nationaux.
Et notamment, il a remis sur et d'ailleurs, sous la pression de Merz, ils ont réévoqué le fait que le nucléaire français ne soit plus le seul apanage de la France.
Bien sûr, bien sûr.
Ben, je parle du nucléaire militaire. Hein, c'est, voilà.
Oui, là, la dissuasion nucléaire.
Oui, ben, on peut dire la même chose du nucléaire civil. Hein.
Oui, oui.
Oui, parce que là, il y a eu quand même le décret qui est passé saboté, tranquillement. Hein. Ah, pardon, je vous coupe. Mais il y a eu le décret qui est passé tranquillement, EPP3.
Alors que ça n'aurait pas dû être un décret.
Hein, il aurait dû passer en commission parlementaire. Mais tout ça pour satisfaire à qui ? À l'Allemagne, qui a fait les gros yeux en disant qu'en matière de dépenses énergétiques, on n'avait pas du tout atteint les objectifs et que par conséquent, il va falloir très vite nous remettre à niveau. Et Sébastien Lecornu s'est empressé, effectivement, de pousser ce décret qui va rendre l'électricité de France encore plus chère, qui n'est pas du tout dans nos intérêts, puisque nous avons déjà un parc nucléaire qui est suffisant, et on va arriver avec des centrales qui vont surchauffer, qui vont être incapables, en fait, de fonctionner, qui vont s'user. On a forcé, on a formé les ingénieurs, les techniciens, finalement, à la dénucléarisation, et là, il va falloir former des gens à la renucléarisation. Ça va être très compliqué pour la France. Les Français vont évidemment donner de leur porte-monnaie et l'Allemagne va pouvoir continuer une collaboration nucléaire avec l'Allemagne, avec la France, pardon, à son profit. Donc on se fait, je ne vais pas dire le mot, mais on se fait...
Dépouiller.
Dépouiller, je cherchais.
Oui, voilà. L'Allemagne, comme la France, ont été sous la coupe d'idéologues écologistes, d'écologie politique, sous la coupe des Verts. En fait, ce que fait l'Allemagne, elle s'est elle-même flinguée. C'est-à-dire qu'elle a flingué son propre parc nucléaire, ouais. Et ensuite, un peu embarrassée, effectivement, elle a quand même soutenu en sous-main. Mais enfin, sincèrement, je pense qu'on ne peut pas tout mettre tout le temps sur le dos des Allemands. C'est-à-dire qu'on est quand même assez fort pour se saborder tout seul.
Ah oui, on n'a besoin voilà. De personne, mais disons que...
Et donc, ouais. je ne pense pas que l'Allemagne organise le monde et l'Europe à son profit. En revanche, lorsqu'elle se tire une balle dans le pied, elle a très envie que les autres s'en tirent une aussi.
C'est ça.
De façon à ce que nous n'ayons pas d'avantage comparatif. Enfin, coup sur coup, ils ont quand même fait deux choses extraordinaires. C'est-à-dire que moi, je pense que l'Allemagne, il y avait un trépied stratégique qui était formidable, hein, qui n'était pas tout à fait bénéfique à la France et à l'Europe, d'ailleurs. Le premier, c'était de bénéficier de l'énergie, pied du trépied, bénéficier de l'énergie du gaz russe peu cher pour son industrie. Le second, vendre à fond à la Chine et le troisième bénéficier du parapluie militaire du parapluie militaire américain. Depuis, ils ont laissé flinguer Nord Stream, ils n'ont rien dit, ils ont fait mine de croire que c'était les Russes, qui est absolument grotesque. Ils ont détruit leur centrale nucléaire, ce qui était possible à l'époque où ils avaient le gaz russe. Ils se retrouvent sans parapluie militaire américain, puisque ceux-ci considèrent désormais que ça leur coûte un peu cher. Quant à vendre à la Chine, ça va être compliqué avec une énergie extrêmement chère. Et donc, je pense que l'Allemagne, à l'égard de la France, a un un petit peu la même attitude que les États-Unis à l'égard de l'Europe, c'est-à-dire que ce sont quand même des puissances déclinantes, à mon sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, l'Allemagne pèse encore parce qu'elle a des économies et que nous, on n'en a plus du tout, donc elle est encore un peu considérée, mais un peu comme ce vieillard vénérable qui a eu une gestion avisée de son ancienne fortune, mais objectivement, je ne lui vois pas un avenir très, très rose non plus, hein. Mais en revanche, vous avez raison. Dans ce jeu de cascade, elle est quand même mieux positionnée que nous. Mais voilà, nous, on est vraiment au fond du trou quoi, par rapport à eux. Hein.
Et puis, il y a quand même la manière dont les États-Unis veulent donner le commandement du temps à un Allemand, ce qui ne s'était jamais vu. Il y a la manière dont l'Allemagne vote des lois qui lui permet de baisser son coût énergétique alors que la France continue à se soumettre à la reine,
Dans un processus d'affaissement, c'est-à-dire l'Occident s'affaisse, dans cet affaissement, les États-Unis renforcent leur suggestion sur l'Europe, désignent comme capot, en quelque sorte, l'Allemagne, et nous acceptons d'être sous suggestion allemande. Mais tout ça dans une sorte de mouvement néanmoins totalement descendant. Voilà. Alors qu'au contraire, je pense qu'on peut retrouver une place et il faudrait renverser totalement la table. Et notamment revoir nos jeux d'alliance. C'est-à-dire que nous, si on veut sortir de ce jeu de suggestion, il faut changer complètement de paradigme géopolitique et reprendre une autonomie. Ouais. Mais on n'en prend malheureusement pas le chemin.
La seule solution, c'est le Frexit. Enfin, c'est la sortie de l'Union européenne.
Ouais, enfin, moi, je crois que sincèrement, il ne faut pas partir que dans les choses institutionnelles. C'est-à-dire c'est quand même un paravent de se dire.
Il faut quand même commencer par là.
Pas forcément, on peut simplement décider.
Non, c'est impossible.
Non, c'est impossible parce que ce qui est énervant avec les souverainistes, c'est que ils sont trop juridiques. C'est-à-dire que moi, je pense que le politique prime sur le juridique et que la France est suffisamment forte, néanmoins, placée en Europe, c'est-à-dire pays fondateur, elle a la force symbolique, pays fondateur, situé au cœur de l'espace de l'Union européenne, ayant quand même encore un siège au Conseil de sécurité, pour l'instant encore force nucléaire, malgré tout puissance économique qui pèse encore dans le tableau général. Eh bien, si elle décide souverainement de prendre un certain nombre de décisions, sincèrement, que va faire l'Europe ? Bruxelles, combien de divisions ? Pas grand-chose. Des armées de juristes ? Eh bien, dans ce cas-là, il ne sera pas trop tard pour leur dire « Très bien, vous voulez partir au conflit ?» Faisons-le. Mais sinon, nous, ce qu'on exige, c'est simplement ceci ou cela, comme l'a fait le général de Gaulle. Il n'est pas sorti de l'Union européenne.
À cette époque-là, il n'y avait pas eu le traité de Maastricht, il n'y a pas l'Union européenne. On est dans une autre structure.
Toutes les règles de Maastricht, elles ont sauté, les règles budgétaires. Quand l'Allemagne décide d'en sortir, on en sort et personne ne dit rien. Tout simplement parce qu'on ne peut pas se passer de l'Allemagne dans le dispositif. Et de la même façon, si la France dit « cette règle-là, en fait, elle est caduque parce que les intérêts l'exigent », je le fais. Et je ne dis pas ça parce que je souhaite que nous soyons soumis et que je suis un salopard d'européiste. C'est que je veux qu'on arrête de se brider avec ces règles de papier.
On n'a jamais pensé ça de vous, Xavier.
Ce sont les lois.
Quoi que vous dites.
On est comme un fauve, en quelque sorte, qui s'arrête en disant « Ah ben non, d'abord, il faut que je règle les petits problèmes juridiques avant de prendre des décisions. » Ce n'est pas vrai. Il suffirait souverainement d'imaginer. Imaginez deux minutes de Gaulle à la tête de la France. De Gaulle à la tête de la France. Est-ce qu'il dirait « Bah non, maintenant j'ai décidé de faire tel et tel traité et ce sera comme ça » ou est-ce qu'il dira « Avant, il faudrait peut-être qu'on revoie les règles et puis qu'on sorte. » Il dira pas ça. Il dira « Je fais ce que je veux puis c'est tout, je suis la France. »
On va laisser Alexis Poulain réagir.
Je suis d'accord, mais il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut la volonté politique de désobéir, de dire qu'on ne paiera pas les amendes, mais il faut aussi la volonté politique de détruire la Commission européenne. Oui. Et ça passe par dénoncer les traités européens. Donc, l'un dans l'autre, on est obligé de passer par la case juridique, parce que si on ne dénonce pas les traités européens, la Commission européenne se transformera en État, en gouvernement central. Oui. Et donc, il faut les deux.
Oui, si ce n'est que lorsque j'entends la plupart des souverainistes, on me dit que le Frexit et ses questions juridiques sont un préalable. Je pense que le bras de fer et le détricotage de la Commission se fera d'autant mieux qu'on offre un cas concret aux Français en disant « Je ne vais pas les écouter, il y a bras de fer et ils sont détruits ». Alors que si on dit, non, d'abord, il faut passer par un truc, et puis enfin, on n'y arrivera pas. Les gens ne veulent pas du Frexit. En revanche, ils veulent qu'on reprenne notre souveraineté. Donc, reprenons-la, affirmons-la, à l'occasion d'un cas concret. Bon, moi, je prends un exemple, par exemple, on pourrait dire, ben, Schengen, c'est fini. Je ne prends pas les migrants qui viennent de partout dans le monde sur mon territoire. La Commission dit, ah, ben alors, je vous fais les mêmes amendes qu'à la Hongrie. Sauf qu'on n'est pas à la Hongrie. Un pays périphérique et petit comme la Hongrie peut être soumis à ce genre de brimade. Si la France dit, bah non, eh ben en fait, ce sera non. Et à cette occasion-là, on pourra faire rentrer la Commission à sa juste place, voire la démolir complètement si elle s'arc-boute. Mais pas les arguties juridiques, ça ne fonctionne pas. Personne n'y comprend absolument rien. Alors que la souveraineté, c'est frais pour être affirmée. C'est pas fait pour être confié à des juristes qui veulent changer des alinéas dans un sens ou dans un autre, ou sortir de traité. Non, la souveraineté, ça s'affirme. C'est tout.
Bah, c'est sortir, ça, la souveraineté. Non, sortir de traité... Non, si les traités sont signés, c'est pas pour qu'on en sorte. Sinon, il ne faut pas les signer, tout simplement.
Ah ben voilà, vous raisonnez comme la Commission. Le problème des souverainistes, c'est qu'ils raisonnent avec le même logiciel que les juristes qui ont voulu nous enserrer. Je suis navré de le dire, mais c'est la réalité.
C'est de la technocratie, je parlerais plutôt de technocratie que de juriste, parce qu'on a calqué une administration très complexe, suffisamment complexe d'ailleurs, pour que tout le monde s'y perde et tout le monde soit interdépendant. Parce que l'Europe démocrate, avec un Parlement européen qui prendrait des décisions, on sait très bien que ce n'est pas le cas.
Il y a deux types de personnes qui me disent « Ah ben ça, on ne peut pas le faire parce que le traité. » Il y a les européistes qui disent « Ça, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a le traité. » Et il y a les souverainistes qui disent « Ah ben ça, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a le traité. Il faut d'abord le Frexit. » C'est exactement le même type de raisonnement. Exactement le même type de raisonnement.
Il y a quelque chose qui quand même vient en faveur de la position de Xavier, c'est qu'on a signé des traités et que, par exemple, quand on nous parle d'Europe de la défense, ce n'est pas dans les traités. Où on a signé des traités et donc il y a des domaines qui normalement n'appartiennent pas aux compétences de l'Union européenne et que l'Union européenne s'arroge sans protestation. Donc c'est vrai que le strict cadre juridique est en permanence battu en brèche par ceux qui veulent avancer leur agenda fédéraliste et c'est uniquement... Et sans qu'il y ait de résistance de ce côté-là. Et donc, l'argument juridique, à mon sens, peut très bien être retourné contre la Commission en leur disant « Vous ne pouvez pas, d'un côté, nous expliquer qu'il y a des règles de l'unanimité, mais qu'en fait, vous allez les arranger parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on a signé. Vous ne pouvez pas nous expliquer qu'il y a une Europe de la défense alors qu'en fait, justement, on a fait en sorte que la défense ne fasse pas partie de l'objet des traités. Et brusquement, lorsqu'on a envie... Oui. de faire autre chose que ce qui est prévu, nous expliquer que la loi et les règlements empêchent qu'on bouge. C'est un peu comme le Conseil constitutionnel qui nous explique que voilà, maintenant qu'il a décidé d'interpréter, de surinterpréter tous les textes fondamentaux français, il est rigoureusement impossible qu'un quelconque référendum sur l'immigration soit organisé à un quelconque moment.
Oui, c'est vrai que, évidemment, il y a une... Il y a des droits qui ont été pris et outrepassés, mais je pense que malgré tout, s'émanciper d'une Europe avec laquelle on va couler, parce que l'Europe, elle va, je pense, finir par couler, elle va mourir de ses institutions.
Elle est déjà morte.
Elle est déjà morte, oui, là. Bon, on va dire, elle en soins palliatifs, quoi. Voilà, on l'a fait un petit peu artificiellement vivre. Donc, je pense que c'est un signe aussi qu'il faut que les États récupèrent leur souveraineté, et je pense au plus vite, pour ne pas agoniser, accompagner la lente agonie de l'Union européenne.
Bah, je suis d'accord.
Ah,
la méthode.
D'accord.
Moi, je critique la méthode.
Ouais. Ah, la méthode, oui.
Bon, la méthode, c'est de dire, d'abord, il faut le Frexit, et donc, demander aux Français de voter le Frexit, il n'y en aura pas, en fait. Ils ne veulent pas ce changement. Ce qu'ils veulent, c'est le retour de la souveraineté. Offrons-leur ce retour de la souveraineté. Constatons que la Commission se met à trépigner. Et puis, disons juste, bah non. Et puis, c'est réglé. Sincèrement, c'est aussi simple que ça.
Oui.
Aussi simple que ça. Madame von der Leyen veut une... Richard l'a très bien expliqué. Veut une souveraineté européenne. Eh bien, elle ne s'embarrasse pas de traités, d'arguties juridiques.
C'est vrai.
Elle fait. Eh bien, faisons de la même façon. Un vrai chef d'État français... n'aurait pas à réunir des commissions entières de juristes. Il l'affirme et c'est tout. Et c'est ça le propre de la souveraineté, c'est avoir le sceptre en main et dire « je suis le souverain et c'est comme ça ».
Oui,
alors... voilà. La vraie, c'est vraiment la souveraineté à la Jean Bodin, c'est-à-dire « je suis la loi suprême ». Voilà. Ce qui est toujours un peu le danger, malgré tout, de la souveraineté, puisqu'on comprend bien que la souveraineté européenne que vante Emmanuel Macron est basée exactement sur cette même idée, c'est-à-dire qu'il y a un territoire, et là, il y a un juge suprême, et ce juge suprême établit le bien et le mal, le blanc et le noir, et sans zone grise, et sans qu'on puisse y faire appel. Alors qu'une fois plus, voilà, chaque fois qu'on rentre à l'intérieur d'une... justement, d'un système juridique, on se range tout entier sous l'ordre de la loi, et c'est ça qui est gênant. Parce que malgré tout, on voit bien que les peuples européens n'ont pas envie de la guerre, les peuples européens n'ont pas envie de parler d'un sabir international, les peuples européens n'ont pas envie de perdre leurs identités propres. Voilà, donc autrement dit, cette Europe qu'on nous a vendue est d'abord quelque chose de contre-nature, et que les traités qui nous lient, lient des fictions juridiques qui seraient ces États modernes, voilà, où on apprend que la France est une idée, selon le général Lecointre, ou que la France est la République, selon Emmanuel Macron. Là, donc, voilà, je suis assez mal à l'aise avec l'idée d'une souveraineté qui serait uniquement une affaire de puissance suprême, d'un droit suprême.
Une affaire de légitimité. C'est-à-dire que ce qui est très fort, c'est que un chef d'État français élu par les Français qui déciderait de se saisir à niveau du sceptre aurait une véritable légitimité face à une commission qui n'en a pas. Et c'est pour et en plus de la masse que représente la France et de sa consistance historique, il l'emporterait. Imaginez deux minutes, prenons un cas récent, le Mercosur. Si, à l'évidence, on a fait semblant de s'y opposer, et donc on a perdu, et après on dit « c'est l'Europe, c'est à cause de l'Europe », alors qu'en fait... C'est un paravent. Ils sont très contents que le Mercosur ait lieu. Ils étaient favorables au Mercosur et ils sont contents de pouvoir s'abriter derrière l'Europe pour dire qu'on l'a signé. Mais qu'en fait, ils se sont opposés, mais que les règles juridiques font qu'on était enserrés, on était coincés. En réalité, c'est faux. Ils étaient très contents. Imaginez deux minutes que Emmanuel Macron ait dit solennellement au nom de la France, eh bien, c'est très simple pour nous. Le Mercosur, c'est un casus belli. Et si vous nous l'imposez avec vos règles, eh bien, c'est très simple. On va à la crise. Parce que pour nous, c'est niette. Eh bien, il n'y avait pas de Mercosur. Tout le monde aurait fait marche arrière. Illico. L'Europe serait déstructurée par le départ de la France. Donc la France peut retrouver très facilement sa souveraineté. Mais elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas.
Hein,
toutes les règles juridiques qu'on met en avant, ce sont des paravents pour s'exonérer de leur responsabilité absolument épouvantable de dire oui à tout. La source de nos problèmes n'est pas tant ces règles-là, elle vient de la haute trahison de nos dirigeants, qui s'abritent derrière ces règles, alors qu'ils pourraient s'en extraire extrêmement facilement. Regardez, toutes les règles budgétaires de Maastricht et autres ont explosé depuis la crise de 2008. On s'en est exonéré très tranquillement parce que ça ne nous arrangeait plus. Et on peut démultiplier les exemples de la sorte.
Non, alors je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une forme de paravent. Là, s'abriter uniquement derrière l'Europe pour continuer à faire ses petites affaires, d'autant plus que la soupe quand même est très très bonne Parlement européen. La soupe, elle est très bonne. Évidemment, tout le monde s'érige contre l'Europe, mais en même temps, bon, si on peut être député... c'est quand même plutôt
député,
sympa.
Ça rien encore par rapport aux autres.
Oui, voilà, mais déjà rien que député, c'est déjà pas mal. Hein. On a quand même une bonne planque. Mais je reste quand même persuadée que dans l'idée de Maastricht, auquel quand même beaucoup de gens se sont opposés, il y a eu ensuite le traité de Lisbonne, il y a eu des trahisons, et vous avez raison de parler de trahisons, effectivement, des dirigeants qui sont allés contre les peuples pour approfondir l'Europe et approfondir les institutions européennes. C'est quand même ce qui est en train de se faire. Un délitement, c'est certain, mais c'est quand même en train de se faire. Et je pense que, alors pour ma part, mais ça n'engage que moi, je pense qu'un Frexit reste nécessaire, mais n'empêche pas des coups de force, et sera d'autant plus faisable qu'il y aura cette légitimité de la souveraineté française affirmée, comme vous l'avez dit.
Pardonnez-moi, je ne voudrais pas jouer les fâcheux, mais il nous reste 7 minutes et 23 secondes.
Vous jouez les fâcheux aussi, peut-être.
Jamais jouer les fâcheux. Mais des débats passionnants entre frexiteurs et personnes qui pensent qu'on n'est pas obligé de frexiter immédiatement. Je vais, selon la tradition bien établie dans le Libre Journal du lundi, dans le Restons Courtois du lundi, lire quelques messages d'auditeurs qui nous disent que nous sommes géniaux et c'est toujours quelque chose d'assez agréable à entendre. Une auditrice de Paris dans le 16e envoie 150 euros. Cher président et tous ceux qui font Radio Courtoisie, je vous adresse mon chèque de soutien. Je sais que vous avez engagé des travaux dans le studio, tant mieux. Je vous soutiens le mieux possible car la grosse publicité est souvent inepte et vulgaire, mais rapporte. Bravo pour la matinale que j'apprécie beaucoup, entre autres émissions. Ben, merci à vous, madame, de nous soutenir avec autant de générosité. Un couple d'auditeurs d'ici les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine envoie 500 euros. Quel bonheur de vous écouter tous les matins. Merci, même si les nouvelles sont rarement réjouissantes. Vous entendre, vous et vos invités, me donne le courage d'espérer que le Seigneur vous bénisse tous. Eh bien, merci d'avoir fait pleuvoir votre propre bénédiction sur Radio Courtoisie et nous serons fidèles à ce que vous nous donnez. Et enfin, un auditeur de Ville-d'Avray dans les Hauts-de-Seine envoie 90 euros. Étant chômeur en fin de droit, ayant une peur panique de traverser la rue pour trouver un emploi, je suis toujours réticent à l'idée d'entrer en contact avec les oursins que j'ai dans les poches. Toutefois, pour aider à la croissance de Radio Courtoisie, je prends sur moi, prends mon chéquier et vous prie de trouver 6 juin un chèque de 90 euros. Désolé, c'est tout ce que je peux faire, mes moyens sont moyens. A priori, je ne suis pas imposable, mais il n'est pas impossible que je le devienne avec les goinfres qui nous gouvernent. Gouverner, c'est voler, tout le monde sait ça, nous dit Caligula dans la pièce d'Albert Camus. Eh bien, je vous promets que nous ne volerons pas votre argent et que nous continuerons avec ces 90 euros qui sont très généreux faire en sorte de défendre ceux qui justement n'ont pas envie de se faire voler par l'État entre autres, ni par tous ceux qui ont envie de prendre la France. Voilà, c'était la minute où je remercie vraiment du fond du cœur tous les auditeurs qui nous écrivent, qui nous donnent et qui en plus accompagnent avec ces petits mots qui sont tout à fait revigorants. Il nous reste un dernier sujet à aborder qui faisait partie du programme. Je sais qu'il y a une tradition chez Pierre-Alexandre qui est de faire en sorte que, de ne jamais conclure le programme qu'il s'était donné. On va quand même essayer en 3 minutes de parler de cette église dans la Mayenne, une église du XIe siècle que le maire a décidé de détruire.
Oui, alors ça c'est une affaire qui a secoué un petit peu le réseau, les réseaux sociaux depuis quelques semaines, puisque un prêtre a été placé en garde à vue pendant quand même 36 heures, ce qui est pas mal. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite église dans un bourg de Mayenne du XIe siècle, ce qui est quand même important à préciser, parce qu'il n'y en a pas tant que ça des églises de cette époque, qui est vouée à la destruction par le maire de cette ville, qui, selon les anti-destructions, a volontairement laissé l'édifice s'effriter et s'abîmer afin de le raser, ce qui coûte finalement moins cher que de le restaurer. Un comité anti-destruction donc l'oppose au maire et c'est arrivé même jusqu'à une forme de mini-émeute avec menée par un prêtre qui est alors qu'un prêtre qui n'est pas du diocèse hein, qui n'est pas de la paroisse et qui est venu asperger d'eau bénite la dite église. Ce qui a amené une forme de rixe, on peut dire. Enfin, le maire s'est senti attaqué, si bien que l'abbé a fini en garde à vue. Ce qui peut-être a fait bouger les choses, puisqu'apparemment, le patrimoine s'intéresse de plus près maintenant à cette église et songe peut-être à la conserver. Donc à voir, mais en tout cas c'est une affaire qui agite beaucoup la sphère des réseaux sociaux. L'abbé est intervenu à plusieurs reprises pour parler de cette garde à vue qui semble effectivement unique et un peu exagérée au regard de ce qu'il a pu faire. Mais de l'autre côté, on a l'impression d'assister à un Don Camillo quand même. Un mauvais Don Camillo où il y aurait l'opposition entre le prêtre et le maire qui tient quand même absolument à déboulonner cette église. Alors, quid de la légitimité des uns et des autres ? C'est une affaire qui peut être quand même facilement résolue, me semble-t-il, au regard simplement juridique. Désolée de m'abriter derrière le droit, mais depuis la loi de 1905, il incombe un devoir au maire de restaurer, d'entretenir les édifices religieux qui sont construits avant 1905. Et c'est un manquement de ce maire, finalement, d'avoir laissé dépérir cette église. Donc peut-être que rappeler au maire ses obligations serait une bonne chose.
Ok, il nous reste 2 minutes pour vous entendre réagir.
Je voudrais pas faire l'oiseau de mauvais augure.
Je n'ai pas de mots.
Ce qui est terrible, c'est que la situation démographique et la répartition de la population en France fait que de nombreux villages ne sont plus en capacité d'entretenir ces édifices. Et voilà, lorsque la vie nous déserte, eh bien, ça fait des dégâts. Je peux pas dire mieux. C'est-à-dire, je suis pour, hein, évidemment, qu'on conserve notre patrimoine. Je ne peux pas imaginer un village de France qui ne soit pas organisé autour de son clocher. Je trouve ça extrêmement triste, mais il ne faut pas non plus cacher que la situation dans laquelle nous nous trouvons va exiger des choix extrêmement extrêmement délicat, en réalité. Extrêmement délicat. On ne peut pas à la fois laisser les campagnes se désertifier, le pays se désindustrialiser, la population disparaître parce que les familles ne sont pas soutenues, sont même plutôt brimées, et ensuite ne pas voir que ça va avoir des conséquences absolument dévastatrices sur tous les aspects de notre vie, en réalité. Voilà.
Non, mais le 11...
c'est terrible, hein,
11e mais... siècle, l'Église. Moi, voilà, oui, l'an 1000, ça me...
Non, non, mais je ne dis pas qu'il faut sacrifier celle-là.
11e siècle. Je ne peux pas.
Des cas comme
je ne tiendrai pas.
Non, mais ce ne sont que les premiers. Voilà. Ce ne sont que les premiers.
Non, mais évidemment, il y a 5000 édifices hein, qui doivent...
Je voudrais juste entendre Alexis Poulain dans les 37 secondes qui nous restent.
Il tient le chronomètre. Non, mais c'est ça, le 11e, c'est choquant parce que là, il est question de patrimoine. Ouais. On a l'auto du patrimoine, on a plein de choses. Enfin, une église du 11e siècle, c'est pas rien. Ouais. C'est toute une histoire derrière. Et cette histoire-là, elle va disparaître. Alors oui, les villages s'effacent en ce moment. Je pense qu'on peut pas oblitérer l'avenir parce que nous vivons un moment difficile. Ouais. Et je crois que là, ce court-termisme peut nous conduire... au pire, à l'effacement temporel, civilisationnel, d'ailleurs, qui était une des peurs agitées par J.D. Vance et Rubio, de dire, mais voilà, vous avez cette histoire plurimillénaire que n'ont pas les États-Unis ouais. d'Amérique, enfin, du moins ceux des colons. Voilà, donc faites attention à votre patrimoine. Faisons attention à notre patrimoine, ça me paraît la moindre des choses.
Ce que je voulais dire en positif, c'est que si on veut que les églises des villages de France continuent à tenir debout, voire même à être remplies, en réalité, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des paysans et des industries dans nos campagnes. Sinon, le problème sera insoluble. Mmh. Et que prendre les choses par le mauvais côté, c'est-à-dire uniquement par le patrimoine et entretenir nos vestiges alors que nous sommes un pays mourant, ça ne fonctionnera pas. Vous voulez des églises ? Eh bien, il faut d'une part qu'elles soient pleines et d'autre part qu'à côté, il y ait des fabriques, des ateliers et des exploitations agricoles qui fonctionnent.
Eh bien, parfait. Mille merci, Xavier Vandelire, Alexis Poulain et Marie Pinsard. Merci. Et je donne rendez-vous à tous les auditeurs de Radio Courtoisie demain pour un autre Restons Courtois animé par ma pomme.
Ça suffit maintenant !